Bien. Alors, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Qui est cet adversaire? Qui est celui qui va s'élever même au-dessus de Dieu? C'est l'Antichrist, c'est clair. Eh bien, que lisons-nous ici? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère d'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui empêche l'Antichrist de se manifester? Qu'est-ce qui l'empêchera de se manifester au moment venu? Il faut que celui qui le retient ait disparu. Eh bien, celui qui le retient, c'est le corps de Christ. Et ça commence d'abord par la fiancée, puis le reste des églises. C'est ça qui retient l'Antichrist. Et un autre passage qui va dans ce sens aussi, c'est dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. 2 Pierre 3. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Vous avez remarqué qu'il était question du mystère de l'iniquité en rapport avec l'Antichrist. Et le mystère de l'iniquité s'oppose au mystère de la piété. Et ça, c'est en rapport avec l'Église. Et le verset 12, 2 Pierre 3, 12 nous dit « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. » Donc, notre sainteté, notre conduite et notre piété, et là c'est le mystère de la piété, doit être accompli pour que le Seigneur puisse venir. On doit hâter cette venue. Le fait qu'on doit hâter la venue nous montre bien que ce jour n'est pas fixe et définitivement fixé. Non, ce jour dépend de l'Église. Ce jour dépend de la fiancée. Si la fiancée se prépare, si rapidement elle se laisse rafraîchir pour être restaurée, eh bien le Seigneur va venir, tout simplement. C'est pour ça qu'on ne peut pas connaître ni le jour ni l'heure. C'est très simple. Vous voyez l'importance et l'importance de notre responsabilité. Il est dit, Paul dit que les anges désirent plonger leur regard dans l'Église. Ils apprennent des choses par l'Église. Et ils regardent au travers de l'Église si l'Église est en train d'être prête pour l'avènement du Seigneur. Alors, c'est important de comprendre ça. C'est un signe qui n'est pas accompli. On pourrait parler de plusieurs points dans la Bible en rapport avec ça, mais par exemple, si vous lisez les 16 premiers versets d'Éphésiens 4, vous voyez qu'il parle des ministères, et c'est au travers des ministères que l'Église va être perfectionnée. Il est dit au verset 12, pour qu'ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps, afin que, le verset 13 dit, afin que l'Église atteigne la stature parfaite de Christ. Et ça, ce n'est pas encore le cas. Et les ministères ne sont pas encore pleinement en place. Je parle dans le monde, au niveau du corps de Christ dans le monde. Je ne parle pas d'une assemblée locale. Donc, ce temps de rétablissement doit se mettre en place. Ça passe par l'obéissance. L'obéissance à la parole. La Bible est immuable. Et plus les chrétiens vivront selon la parole, obéiront à cette parole, plus ils s'éloigneront des choses du monde, plus ils s'éloigneront de la violation de la loi, et plus ils mettront leur vie et leur assemblée locale en ordre par rapport au rétablissement de toutes choses. Alors, nous avons vu en rapport avec cela, nous avons vu que le rétablissement, il passait aussi par d'autres principes importants,
Vous en avez 12 dans Genèse 1, 2 et le début du chapitre 3. 12 avant la chute. On a vu ensemble ces 12 points hier, et ça a été enregistré, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous rappelle simplement qu'il y a 12 clés de perfection dans ces chapitres, et ils sont là pour nous montrer comment l'Église peut grandir vers la perfection. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Bon, on peut peut-être, oui, on peut les montrer trop vite. Allez, voilà, vous les avez là. Hein. Voilà, ces 12 points de perfection. En particulier, regardez comment aujourd'hui, on ne fonctionne plus correctement au niveau du mariage. Tous ces points sont avant le péché de Genèse 3. Ces 12 points nous montrent comment Dieu veut qu'il y ait cette pleine restauration. N'oubliez pas qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est passé à Genèse 1 et 2. Il a effacé Genèse 3 de sa vie, n'est-ce pas ? Il ne vit plus dans le péché. Il vit maintenant en Christ. C'est très beau de voir, par exemple, cela au niveau du mariage. Le mariage, selon le monde, c'est Genèse 3, c'est à partir du péché. On va trouver au niveau du péché toutes sortes de choses, concubinage, c'est même pas le mariage, pax, et tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne vais pas citer maintenant les horreurs que nous connaissons et que nous connaîtrons plus tard. Mais dans Genèse 1 et 2, nous voyons le mariage selon Dieu. Pour que Genèse 2:24 et ses trois principes s'appliquent, quitter son père et sa mère, s'attacher à son épouse et devenir une seule chair, eh bien il faut Genèse 1 et 2. L'égalité entre l'homme et la femme, c'est Genèse 1, remplissez, multipliez la terre, assujettissez, dominez cet ensemble. Et puis Genèse 2, c'est la complémentarité. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et cette égalité et cette complémentarité vont apporter l'unité dans le couple. Ça, c'est ce que Dieu avait prévu. Et c'est ce qu'il veut qu'il se produise encore aujourd'hui. Et c'est particulièrement vrai pour l'Église, si vous lisez Éphésiens 5, versets 22 à 33, où Christ et l'Église sont comparés à un couple. L'Église doit fonctionner dans ce principe, c'est-à-dire que Christ et l'Église doivent fonctionner dans cette unité de Genèse 1 et de Genèse 2. Vous avez tous les autres points qui sont au-dessus. Alors, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir d'Église restaurée s'il n'y a pas d'abord un rafraîchissement. Tout rafraîchissement, toute restauration passe par un rafraîchissement. Mercredi soir, je vous montrerai qu'il y a deux manières d'être restauré. Et aujourd'hui, Dieu utilise les deux manières d'être restauré. C'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas que le réveil. Le réveil est une des deux manières. Il y a deux manières de recevoir, de pouvoir boire de l'eau potable. Vous avez la pluie, et puis vous avez les sources. Pluie, puits. Et si on utilise les deux, eh bien, on va boire de l'eau, de l'eau saine, de l'eau qui va nous rafraîchir, qui va nous renouveler, et qui va nous permettre de vivre. Mais pour qu'il y ait donc cette restauration dans l'Église, ça commence d'abord par les individus. Il faut que les chrétiens soient rafraîchis, restaurés. Et il faut que, ensuite, tout naturellement, les familles soient rafraîchies et restaurées. Et c'est ce qui va se passer ensuite. L'Église va pouvoir grandir dans la restauration. Alors, essayons de résumer, au travers de quelques points, essayons de résumer une vie chrétienne, tout simplement. Je vais vous présenter là un plan de vie. Un plan de vie, et vous allez voir, si vous avez passé certaines de ces étapes, vous allez voir où vous en êtes dans ce plan. Et puis, vous allez comprendre où est-ce que vous allez. On continue donc. Voilà, donc ce plan de vie, il est là. Et ça commence d'abord par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la première clé. On a parlé hier justement de la justification le principe de la justification dans Genèse 1, les premiers versets. Et la nouvelle naissance, elle est en rapport avec, vous allez voir, on continue, je voudrais qu'on aille un petit peu vite, elle est en rapport avec la parole vivante, Jésus, celui qui naît de nouveau, rencontre le Seigneur, au travers du Père, bien sûr, c'est lui qui nous attire vers lui, et puis il a aussi cette relation avec le Saint-Esprit, la parole révélée. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, on reviendra un petit peu sur ces points. La parole. Puis, ensuite, on pourrait ajouter ici ce que la Bible appelle, par exemple, dans Tite, le baptême de régénération, c'est la nouvelle naissance. Jean-Baptiste baptisait pour le baptême de repentance, ça précède la nouvelle naissance, c'est juste un petit peu avant, et on se repent, aujourd'hui on baptise plus, mais on se repent avant de naître de nouveau. Puis ensuite arrive le baptême dans l'eau, c'est une grande étape aussi dans la vie du chrétien. On ne peut pas se faire baptiser dans l'eau si on n'a pas une bonne conscience. Donc c'est en rapport, vous comprenez, avec cette fois la doctrine dont nous avons parlé hier de la sanctification. Cette sanctification, elle est en rapport bien sûr avec le monde, l'étape du monde dans notre vie. À un moment donné, il faut faire des choix. On fait un choix pour naître de nouveau, mais on fait aussi un choix pour être baptisé dans l'eau. Et il y a des choses que l'on garde, et puis il y a des choses qu'on laisse. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Alors, on les abandonne en général de plein gré, parce qu'on a fait ce choix qui nous réjouit. C'est, n'oubliez jamais, c'est le Seigneur qui nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a attirés à lui. Et on est entré dans cet amour, on a reçu cet amour, et donc on a envie de vivre avec lui. Si à un moment donné on n'a plus envie, là il faut se poser des questions. Ce sont des tests pour nous, chacune de ces étapes représente un test qui nous conduit à bien réfléchir pour savoir où nous en sommes dans notre vie. On continue. Et après arrive ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une étape très importante, et celle-ci, elle est en rapport avec l'autorité. En général, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas donné aux orgueilleux. Je dis en général, je n'ai pas dit tout le temps. Mais le baptême dans le Saint-Esprit sous-entend de vivre dans l'humilité, de dépendre du Seigneur, de se soumettre au Seigneur. Et quand on a reçu ce baptême, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est clair, mais, on continue, c'est le Saint-Esprit qui va donner les dons. Alors, jonge pas tout. Il y a, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, vous avez là beaucoup de versets très intéressants qui parlent de deux types de dons au niveau des langues. Il y a le don personnel, et ça c'est Jésus qui le donne. Et puis il y a le don de parler dans les langues qui est accompagné de l'interprétation, et ça c'est le Saint-Esprit qui le donne. Hein? C'est différent. C'est pour ça que ce don personnel, il est donné à tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit à un moment donné ou à un autre. Il y a une grande différence entre ces deux dons. Mais la suite logique, c'est que tout simplement, le baptême dans le Saint-Esprit va donner une puissance. Acte 1:8, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. N'oubliez pas le sel, hein? Celle du Saint-Esprit. Parce que vous savez qu'il y a malheureusement des sectes qui disent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Bon, c'est plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, il va donner un ou plusieurs dons qui vont se manifester dans la vie du chrétien. Puis nous continuons, et c'est très personnel. Hein? Les dons, c'est personnel. Vous en avez qui vont recevoir un don d'une manière et un autre d'une autre manière. C'est pour ça que Paul l'explique bien dans Romains, par exemple, au chapitre 12, quand il dit que selon la mesure de foi qui a été répartie à chacun, chacun reçoit un même don pourra être exercé différemment en fonction de la mesure de foi que le Seigneur, que l'Esprit nous a donnée. Nous continuons. Et tout naturellement arrive le moment du service dans la vie chrétienne. Le moment où on est appelé à servir le Seigneur. Et là, c'est là qu'il faut avoir en tête le fait que des œuvres ont été préparées d'avance. C'est merveilleux de comprendre cela. Un jour, je parlais avec quelqu'un et il se disait, il me posait la question, il me disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors c'était un problème de volonté de Dieu qu'il ne comprenait pas. Et je lui ai dit, mais pourtant c'est simple, c'est très simple. Souvent beaucoup de chrétiens cherchent midi à 14 heures. Mais c'est très simple, on a à faire quelque chose, mais ça c'est notre part. Mais la part de l'homme ne viendra jamais avant la part de Dieu. Jamais. Alors, on a simplement à fonctionner, et au départ, c'est ce que la Bible dit que nous sommes, dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant, il ne se pose pas de questions. Un enfant, il ne réfléchit pas. Un enfant, il obéit. Un enfant, eh bien, il suit ses parents, n'est-ce pas, la tout. C'est comme ça que ça se passe, c'est simple, mais c'est tout simple. On n'a pas besoin de se poser 36 000 questions. Dieu nous conduit pas à pas, il nous montre ce qu'il veut faire et il nous suffit d'obéir. Les œuvres, c'est Dieu qui les a préparées d'avance, il va te montrer ce que tu dois faire. Le service, eh bien le service, il va te montrer ce service auquel tu es appelé. Alors le service, on continue, on y va. Vous voyez, c'est en rapport avec le plan de Dieu. Je vous montre ce chemin de vie. C'est en rapport avec le plan de Dieu. Dieu a un plan pour notre vie. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Ils sont beaux ces versets. Hein? On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Ça, c'est converti à Dieu, c'est là. Abandonner les idoles, c'est entrer ici et là. Et il est écrit ensuite, pour servir le Dieu vivant et pour attendre des cieux Jésus son Fils qui nous délivre de la colère à venir. Mais entre le fait d'être converti et le fait d'attendre Jésus, il y a le service. Jésus nous a sauvés pour faire quelque chose. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il y a ce service, il y a un livre divin qui va être ouvert au tribunal de Christ. Et là, le Seigneur va regarder les œuvres préparées, le service. Alors, c'est ce que je vous dis ici, les dons, on continue. Eh bien, les dons, tout simplement, ils vont conduire à servir le Seigneur. Des œuvres vont être pratiquées, puis ces œuvres, elles vont produire des fruits. Elles vont produire des fruits. Et là, on revient à Jean 15, par exemple, qui nous dit de porter du fruit, porter plus de fruits, porter encore plus de fruits, les questions, 4 fois porter plus de fruits. C'est en rapport avec les 4 doigts, hein, pour ceux qui connaissent. Et à un autre endroit, l'évangile de Jean, il dit du fruit qui demeure. Le fruit doit demeurer. Ça doit continuer. Et jusque dans l'éternité. Alléluia. Donc, œuvre, fruit. Par exemple, regardez Ésaïe chapitre 3. Alors, Ésaïe 3, verset 10. « Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. » Voilà. Les œuvres doivent conduire à un fruit. Le fruit de ses œuvres. Si vous voulez bien comprendre, prenez l'image de l'arbre. La Bible compare les hommes, les êtres humains, les chrétiens, pas seulement les chrétiens, les non-chrétiens aussi, à des arbres. C'est écrit plusieurs fois. Et un arbre, ben, il doit d'abord avoir des racines, pour pousser, puis il va avoir un tronc, il va avoir des branches, puis il va y avoir ensuite des feuilles, et puis il va y avoir des fleurs, et puis il va y avoir des fruits. Ça, toujours, ça va se terminer par des fruits. Là, on voit toute la progression de la vie de l'arbre jusqu'au fruit, du fruit qui demeure. Nous continuons. Je ne vous donne pas tous les passages, tous les versets. Hein. Vous les lirez chez vous. Il y en a tellement. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé dans Jean 21, des grands poissons. Vous vous rappelez de cela? Il y avait 153 grands poissons dans le filet qui ne s'est pas rompu. Et ces 153 grands poissons, ça nous parle de tous les fruits de Christ quand il était sur la terre. Il a rencontré 153 personnes, ou types de personnes, qui sont devenues des hommes, des femmes qui vont servir le Seigneur. Lisez les quatre évangiles, vous allez trouver ces 153 poissons en rapport avec Christ. C'est pour ça que le filet était plein. Jésus ne pouvait pas ajouter un 154e. Non. Il faut que lorsque notre vie terrestre sera finie, eh bien, on puisse dire « J'ai vraiment achevé la course ». Là, tous les fruits qu'il était possible d'avoir au travers des œuvres que Dieu avait préparées d'avance, mais j'en ai perdu aucun. J'en ai perdu aucun. Il y aura toujours le fils de perdition, bien sûr. Il y en aura toujours, ça c'est inévitable. Mais vous aurez été jusqu'à la plénitude. Et ça, c'est très important. Alors, nous arrivons ensuite à... C'est ce point très important, la connaissance de Dieu. Vous savez, c'est le Père qui nous attire à lui, ça se passe à la nouvelle naissance. Mais très souvent, et je suis sûr que vous pouvez témoigner de cela, on n'a pas vraiment une connaissance claire du Père. On connaît bien Jésus, au travers de lui, le sang de Jésus nous a purifié tout péché, on est né de nouveau, on l'a rappelé tout à l'heure, au travers du repas du Seigneur. On voit bien l'œuvre du Saint-Esprit, on connaît le Saint-Esprit quand il agit dans nos vies, quand il se manifeste au travers des dons, mais on a plus de mal avec le Père, n'est-ce pas? Et la connaissance du Père, elle vient plus tardivement. C'est là on entre, si vous voulez, dans une relation père-fils ou père-fille qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas pour rien que le diable a voulu détruire en premier cette relation. Il a voulu détruire la relation de Christ avec son Père. Parce que c'est la plus importante. Et celle-ci, eh bien, nous apprenons à le connaître et à vivre dans cette relation. Il y a toujours des exceptions. Je me souviens, je peux témoigner de cela. Nous parlions avec la famille Poitou, quand j'étais chez eux. Je ne vous ai jamais donné mon témoignage, je crois. Hein. Dans l'église de Toulon, vous avez déjà entendu mon témoignage? Oui ou non?
Oui.
Oui, c'est parfait. Bien, alors, une chose importante, c'est lorsque je suis né de nouveau, mon père m'a mis à la porte, hein, il m'a donné un coup de poing dans la figure, il m'a chassé de la maison, et là, il y a eu cette parole de Dieu. Vous savez, vous connaissez ce psaume, même si ton père et ta mère t'abandonnent, je serai toujours avec toi. Il y a eu cette parole de Dieu. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je serai ton père. Alors, bien sûr, cette connaissance du Père, pour moi, elle a commencé déjà à la nouvelle naissance. C'était quelque chose de particulier. C'était quelque chose... Le Père céleste remplaçait le Père terrestre. Jusqu'à ce que mon papa devienne chrétien, et que les choses changent, bien sûr. Mais il a fallu quand même attendre 30 ans. Hein. 30 ans entre la nouvelle naissance et la sienne. Et... En général, eh bien, la relation avec le Père, la connaissance profonde du Père, elle se fait plus tard dans la vie chrétienne. Elle se fait souvent quand on a besoin de renouvellement. Justement, on parlait de rafraîchissement tout à l'heure. Et nous arrivons au dernier point. Au dernier point, alors vous voyez, je ne l'ai pas mis à la fin, parce qu'on peut déjà le vivre là. Ça, on a parlé des cinq baptêmes, hein, baptême de repentance, baptême de régénération, d'antique, baptême dans l'eau, baptême dans le Saint-Esprit, baptême de feu. Le voilà. Et le baptême de feu, eh bien, nous amène à parler de la souffrance, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance avant. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la gloire ne va pas sans la souffrance. On peut le signaler. Voilà. La souffrance et la gloire, la septième étape. Comme disait ce frère George Muller, il disait « Tu veux grandir dans la foi ? » Eh bien, le meilleur moyen pour grandir dans la foi, pour que ta foi se développe, c'est au travers des plus grandes souffrances. Plus tu souffriras, plus tu apprendras à marcher dans la foi. Et c'est vrai. Je peux vous dire que c'est vrai. Et donc, la souffrance, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. En général, je vais dire que c'est quelque chose que la chair n'aime pas. Mais on pourrait parler de la chair physique, mais je parle de la chair, hein, la vieille nature, si vous préférez. C'est quelque chose que le corps et l'âme, aussi l'âme irrégénérée, n'aiment pas. Mais l'âme sanctifiée par l'esprit n'a pas peur de la souffrance. Elle connaît le chemin de la souffrance et elle est prête à aller dans cette direction. Vous connaissez le chemin de la souffrance, c'est quelque chose de merveilleux. N'est-ce pas? Ça passe d'abord par, on a vu certaines de ces étapes, la justification, la sanctification. Le chemin de la souffrance nous a été donné par Christ à la croix. Je dirais de Gethsémané jusqu'au séjour des morts, au travers des trois agonies de Christ. Au travers des souffrances de Christ sont sorties les sept alliances en rapport avec la souffrance. C'est par les souffrances de Christ qu'est arrivée la justification, la sanctification, la guérison. Et oui, nous sommes guéris, Ésaïe 53, Psaume 103, n'est-ce pas ? La santé, la vie de résurrection. Toutes ces choses viennent avec la souffrance. Si on ne souffre pas d'une chose ou d'une autre, ça peut être la souffrance physique, mais ça peut être aussi la souffrance morale. Mais comment est-ce qu'on va expérimenter la vie de résurrection ? Pas possible. Et on a besoin de vivre cette vie de résurrection, parce que ça développe notre foi, ça nous fait grandir avec le Seigneur. Bien, alors, ça déjà, c'est un premier point que je partage avec vous. On continue, on reste avec cette ligne, et on voit ici une autre ligne qui est en rapport avec la sanctification et la délivrance, parce que on n'a pas parlé de tout ici, on a vu que les grandes lignes. Et oui, quand on est de nouveau, la sanctification commence. À la nouvelle naissance, nous sommes libérés, délivrés de certaines choses, même sans le savoir. Mais on n'a rien fait, on s'est simplement repenti, et on est venu à Christ qui nous a libérés, délivrés. Je me souviens comment le Seigneur m'a libéré de la crainte, j'avais peur, je vivais dans la peur. Comment il m'a libéré en grande partie de la peur à ce moment-là. Et donc, le travail de sanctification continue. Eh bien, voyez, il va aller jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Le bout, on va voir, on continue. Il y a donc, pour la sanctification, c'est là qu'on a besoin du fruit de l'esprit. Là, ce n'est pas le travail des dons. Le Seigneur remarquait attentivement quand il recherche des dirigeants d'église, des anciens par exemple. Qu'est-ce qu'il dit ? Lisez tous les passages qui parlent des qualités pour un ancien. Vous verrez qu'il n'est jamais question du don. Il est sans arrêt question du fruit de l'esprit. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est la personnalité. C'est le caractère de la personne. Est-ce qu'elle vit dans la... Est-ce qu'elle travaille au niveau de la sanctification ? Si on vit une vie de sanctification, tout naturellement, eh bien, le Seigneur va nous utiliser. C'est évident. Alors, pour cela, il y a le fruit de l'esprit qui doit se manifester. Le fruit de l'esprit commence à se manifester ici, hein, pas au niveau du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, le fruit de l'esprit, c'est, vous le connaissez, hein, Galates 5, 22, je ne vais pas vous le répéter. Et là, eh bien, on peut ajouter quelque chose. Oui, il peut y avoir encore une délivrance
il y a eu cette délivrance qui s'est faite toute seule à la nouvelle naissance, mais parfois il y a besoin encore de délivrance si on a touché à des choses, si on a été profondément dans certains domaines. Et c'est pour ça que je mets délivrance possible. Ça fait partie de la sanctification, la délivrance. Et il ne faut pas avoir peur, en tant que chrétien, de dire « moi j'ai besoin encore d'être complètement libéré ». C'est ce qui s'est passé pour moi lorsque, je vous disais, j'ai été délivré en partie de la peur. Je me souviens très bien, entre le moment où je quittais le train et le moment où j'arrivais à la maison, j'étais interne dans un lycée, eh bien il fallait que je traverse une forêt. Et l'arrêt du train était un arrêt facultatif. Il y avait juste un petit, un petit cabanon en bois pour se protéger de la pluie, mais c'était ça la gare. Et avant de partir de l'endroit où le train démarrait, ça faisait 20 km, eh bien, il fallait prévenir le chauffeur qu'il s'arrête à cet arrêt facultatif. Donc, je descendais du train, souvent j'étais seul, parce que c'est pour ça qu'il était facultatif, il y avait très peu de gens qui descendaient à cet endroit, et j'avais très peur. J'avais toujours peur quand je traversais cette forêt. Vous savez qu'en montagne, il y a des animaux dangereux aussi. Hein. Et j'habitais à un endroit qui s'appelait le Clos de l'Ours. Alors, il y avait des ours qui vivaient là-bas, pas de mon temps. Hein. Mais c'est pour vous dire qu'il y avait... C'était pas toujours simple. Et j'avais peur. Et quand je suis né de nouveau, ça s'est passé dans le train. Je suis né de nouveau dans le train, tout seul, avec le Seigneur. Je suis sorti du train, et quand j'ai traversé la forêt, je ne l'ai pas réalisé sur le moment, mais arrivé à la maison, j'ai dit, mais tiens, mais j'ai pas du tout eu peur dans la forêt. Et je n'avais pas peur. C'était une toute petite route, elle était juste goudronnée à un peu d'endroits, et c'était délicat. Donc, ça s'est passé à la nouvelle naissance. Et puis, 5 ans plus tard, j'étais en Afrique et je prenais un temps de repos, c'était les vacances de Pâques. Et là, je me suis assis sous un arbre et puis j'étais en train de lire ma Bible, c'était un matin. Et je lisais la biographie d'Hudson Taylor. Et Hudson Taylor avait tellement de travail dans la mission intérieure de la Chine que... il ne savait pas trop comment faire, et sa sœur, qui vivait en Écosse, était sa confidente. Alors il lui écrivait une lettre, je ne sais plus ce qu'il lui disait, mais en tous les cas, elle lui répond, je ne sais plus ce qu'elle lui répond non plus, mais je sais que la réponse de sa sœur m'a bouleversé. J'ai fermé le livre, et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je te prie de me délivrer complètement de la peur qui reste encore en moi. J'avais encore une partie de peur. Et j'ai chassé au nom de Jésus cette peur. Et le Seigneur m'a délivré instantanément. Vous savez, quand le Seigneur fait quelque chose, il vous le prouve après. Et il y a le test qui est arrivé la semaine suivante. Et oui, et la semaine suivante, eh bien, j'ai repris mes activités. Et en dehors de l'enseignement, et j'étais aumônier dans les hôpitaux. Et voilà que je fais ce travail. Le samedi, je vais à l'hôpital. Je monte les escaliers et je vois un militaire qui était debout, qui, c'était clair qu'il a, sensiblement, il attendait quelqu'un. Et je me suis dit, tiens, on va pouvoir parler ensemble. Alors je vais vers lui, je lui annonce l'évangile, il dit rien, il m'écoute, j'ai pris un temps et je lui explique comment il peut être sauvé. Et il ne disait rien. Puis quand j'ai fini de parler, il me regarde, puis il me dit, « Vous savez qui je suis ?» Il avait une voix très forte, il était d'ailleurs très costaud. Et puis là, je commence à regarder, et je n'avais pas regardé les étoiles. Et j'ai vu les étoiles. Et oui, mais le Seigneur est bon, j'avais plus peur, j'avais plus d'accord dans les étoiles. Là, j'ai compris. Et il me dit, « Général Babassi, ministre de la Défense. » Et je peux vous dire que si la peur n'était pas partie, j'aurais dit, « Bon, au revoir », et puis je serais reparti. Il mettait en prison qui il voulait, il faisait ce qu'il voulait dans le pays, même le président de la République se soumettait à lui. C'était un homme terrible. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, « Mais, monsieur le ministre,
C'est bien que vous avez besoin aussi de Jésus, vous. Et j'ai continué à parler un peu avec lui. Puis j'ai redescendu les escaliers ensuite, et voilà qu'un cortège arrive avec des militaires. Alors là, j'ai bien regardé les épaules, cette fois. Et j'ai vu que c'était un colonel. Et j'arrête le colonel dans les escaliers. Alors les gardes du corps arrivent, prêts à me mettre de côté. Le colonel dit, non, non, laissez, laissez. Et pendant 10 minutes, j'ai bloqué les escaliers, le cortège, et j'ai parlé du Seigneur au colonel. Jamais je n'aurais pu faire ça avant. Vous comprenez? Jamais. Là, j'ai eu la preuve que j'étais complètement libéré de la peur. Dieu veut faire ça dans nos vies. Si on a besoin d'une délivrance personnelle, il ne faut pas hésiter, quel que soit le domaine. Alors, il y a des moyens pour le savoir. C'est très facile. C'est très, très facile. Si, par exemple, vous priez pour quelque chose, vous savez que c'est quelque chose qui fait partie de la sanctification, de cette ligne qui est en haut. Vous priez une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, ça ne part pas, alors vous avez besoin de délivrance. Voilà. Ça, c'est le moyen pour savoir. Et là, n'hésitez pas à demander. Il y a des frères et sœurs compétents pour ça, qui ont la maturité, pour vous aider à être complètement libérés. Parce que l'esprit veut nous conduire dans la liberté, n'est-ce pas? Et si Jésus était libre... Regardez, sans arrêt, il était attaqué par des pharisiens. Si ce n'était pas les pharisiens, c'était les sadducéens. Il y avait toujours quelque chose, mais Jésus vivait dans cette liberté. Et il faut que nous soyons libres. Je ne peux pas accepter cette théorie qu'on lit souvent dans des livres chrétiens, ou qu'on entend que, eh bien oui, tu as ça dans ta vie, ben écoute, tu dois vivre avec jusqu'à la fin de ta vie, hein. Et puis tu dois te sanctifier, tu dois résister à cela. Mais il y a des choses, si on en est libéré, on n'a plus besoin de résister. Alléluia. Bien, nous continuons. Je ne veux pas non plus rester trop longtemps sur le but, c'est pas d'étudier un point. Hein. Et alors, on arrive à la fin de notre vie et on atteint la sainteté. Le processus de sanctification va nous conduire à la sainteté. Ça, c'est donc que vous pouvez intégrer cette ligne qui est en haut à celle-ci, bien sûr, mais c'est pour la détailler que je vous en parle. Continuons, et nous voyons maintenant une autre ligne, Jésus, la parole vivante. Eh bien, la parole vivante, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire avec Christ? C'est vrai qu'au travers de lui, on est de nouveau, mais... Ça vient? Voilà. On est appelé à vivre avec Christ toute notre vie. Il y a tellement de versets qui nous montrent cela. Et quelle est la grande clé? Quelle est la grande clé en rapport avec Christ toute notre vie? Oui, on peut parler avec lui, on peut voir des manifestations de Christ, on peut voir sa main agir, oui, bien sûr. Mais la grande clé... Éphésiens 17, Paul prie pour les Éphésiens qu'ils ouvrent les yeux, que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. C'est le verset 18 qui ouvre les yeux pour le cœur. Hein. Donc, Éphésiens 17, c'est la connaissance du Seigneur. Par exemple, vous avez aussi Éphésiens 4, 13, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est pas pareil que l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, c'est le commencement. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller dans cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 18, c'est le dernier verset de l'épître. Donc c'est, je dirais, ce sont les derniers mots de Pierre. Pierre ne parlera plus ensuite, puisqu'il va mourir. Eh bien, là, quel est le dernier conseil qu'il donne à l'Église? De grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà le but en rapport avec le chrétien, je dois grandir dans la connaissance du Seigneur. Pour grandir dans la connaissance du Seigneur, c'est pas seulement une connaissance intellectuelle. Ça, c'est très intéressant. Vous avez plusieurs mots pour dire connaissance dans le grec. Et vous avez ce mot est en rapport avec une connaissance expérimentée. une connaissance vécue. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est grandir dans la connaissance de Christ. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et vous savez pourquoi? Pour une raison toute simple. On est dans un temps de fiançailles. N'est-ce pas? On est dans un temps de fiançailles. Et qu'est-ce qui est fiancé ici? Personne. Romain. Oui, t'es marié, mais pas plus longtemps. Hein. D'accord? Romain, Doriane. C'est le mot clé quand vous étiez fiancé. Connaissance. C'était le mot clé. Dans le temps de fiançailles, on apprend à se connaître. Et c'est très important. Parce que si on n'apprend pas à se connaître, eh bien, on va découvrir vraiment ce que l'on est quand on sera marié. Et c'est là qu'il y aura des étincelles. Hein. N'est-ce pas? Donc, il vaut mieux apprendre à se connaître avant. Il vaut mieux que tu saches que Doriane, elle n'aime pas le jaune. Hein. Alors, elle ne va pas acheter un canapé jaune à Ikea. Tu aimes le jaune, Dorian? Mais qu'est-ce que tu aimes pas? Bon, vous vous débrouillerez. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? On va vers le mariage avec Christ. On doit apprendre à le connaître de plus en plus. Et ça, c'est le... C'est, ce n'est pas individuellement. Nous, on doit le faire individuellement, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on le fait individuellement, si l'Église apprend à connaître Christ, mais la famille va grandir dans la connaissance de Christ. Et l'Église va se préparer pour l'avènement de Christ. Elle sera prête à rencontrer son Dieu. Rien que pour je parle ici de la connaissance, j'aurais pu prendre un verset en rapport avec la sanctification. Vous savez ce qui est écrit dans la première épître de Jean? Il est dit qu'on se prépare à le rencontrer, mais on se prépare dans la pureté comme lui-même est pur. Bien. Alors ça, c'est en rapport avec Christ. Puis, nous continuons une autre ligne. Cette fois, c'est le Saint-Esprit, la parole révélée. Eh bien, la parole révélée, c'est aussi pour toute notre vie. Et là, combien de fois nous... Je rencontre ce problème dans les églises. Ah, mais Dieu, le Saint-Esprit ne parle pas. Mais comment entendre la voix du Saint-Esprit? Mais tu l'as entendu quand tu es né de nouveau, rappelle-toi. C'est le Saint-Esprit dans Jean 16 qui te convainc de péché, de justice, de jugement. Il a fallu une révélation pour naître de nouveau. Alors, il faut garder cette... Oui, il faut garder... Oui, allô, voilà. Il faut garder cette relation avec le Saint-Esprit toute la vie. Toute la vie, il faut vivre dans la révélation. Vous voyez, c'est terrible lorsque un chrétien ne vit pas dans la révélation. C'est terrible. Il ne faut jamais oublier que la révélation est un des cinq sens de notre esprit. Ce n'est pas parce que tu as des révélations que tu es prophète. Mais tu dois... tu dois vivre dans la révélation, c'est absolument nécessaire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous parle de deux choses, peut-être on pourrait dire ce verset, ça serait bien. 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ça s'est passé là, vous voyez là, là, à la nouvelle naissance. C'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, ça. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait entrer dans le corps de Christ. N'est-ce pas? Pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Eh bien ça, ça s'est passé ici. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, la parole révélée, elle doit continuer à se développer dans notre vie. Alors c'est là qu'on fait intervenir la vie de prière. L'importance de, quand Paul dit aux Thessaloniciens, prier sans cesse, on comprend. Vous voyez? Plus vous allez, je ne vais pas aller trop vite, on continue, la prière, et là, le Saint-Esprit, donc c'est en rapport avec l'onction, vous avez été abreuvé d'un seul esprit,
l'onction va avec nous. Et l'onction nous permet d'entrer dans le combat spirituel. Alors, combat spirituel, bien sûr, ça peut être en rapport avec délivrance possible. En haut, il y a ce qu'on appelle l'auto-délivrance, mais il y a aussi combattre pour les autres. Et pour combattre, il faut connaître. On ne peut pas combattre n'importe comment, sinon on n'aura pas de victoire. Et il y a autre chose sur cette ligne? Non, c'était tout. Donc, combat spirituel, pourquoi? Parce que tout simplement, les chrétiens rencontrent des obstacles tout au long de leur vie. Et tout au long de notre vie, face aux obstacles, on ne doit pas réagir humainement. On ne doit pas chercher une aide humaine. On ne doit pas réfléchir pendant des heures humainement. Non, c'est un combat spirituel. Donc, on doit... j'aurais pu ajouter spirituel, mais vous en doutez. Hein. Et c'est possible seulement avec l'onction. Et puis on arrive à cet autre point important. C'est la parole écrite, la Bible. Mais la Bible aussi, on est appelé à... Oui, on y va. Oh non, doucement, alors. On est... La Bible, la parole écrite, oui. On est appelé à vivre tous les jours, toute notre vie, avec la parole écrite. N'est-ce pas? Parce que, ben, tout simplement, c'est pour ça que la Bible, on doit la lire. Puis quand on a fini, on va la relire. Puis quand on a fini, on va encore la relire. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire à travers ce schéma. Nous donne une idée pour toute la vie. C'est un plan de vie, je le répète. Mais comment voulez-vous faire un plan de vie avec ce gros livre qui s'appelle la Bible si vous n'en connaissez pas tous les rouages, si vous n'avez pas une idée claire, principale, je ne dis pas de tous les versets en détail, mais de toutes les grandes lignes et de certains versets. Il faut pouvoir replacer les choses dans leur ensemble. Et ça, c'est très important. Alors, il y a des choses que l'on fait momentanément, à l'occasion. Mais, si vous voulez, ce que je vous montre là, c'est pour toute la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne. Et donc, la parole écrite, ben oui, la parole écrite, il faut avoir l'amour de cette parole. Comment on va avoir l'amour de la parole vivante, donc l'amour de Dieu, l'amour de la parole. Et c'est d'autant plus important, nous avons eu une conférence il n'y a pas longtemps à Berne, et le sujet c'était Matthieu 24, 12, hein, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité, le mot veut dire la violation de la loi. Parce que le monde va violer la loi, il veut même dire sans loi, il n'y a plus de loi. Parce que le monde ne respectera plus la loi de Dieu, l'amour du plus grand nombre des chrétiens se refroidira. Ce n'est pas l'amour des gens du monde, c'est l'amour des chrétiens qui va se refroidir. Et comment cet amour se refroidit? Eh bien, en abandonnant la parole de Dieu. Jésus, nous l'aimons, mais Jésus, on ne le voit pas. N'est-ce pas? Mais la parole, nous l'avons tout le temps sous les yeux. Et nous pouvons voir l'amour de Dieu dans ce livre. Et nous pouvons vivre de l'amour de Dieu au travers de ce livre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que, avant tout le reste, tout commence par la parole. N'est-ce pas? Tout commence par la parole. Et tout se règle avec la parole. Tout se règle avec la parole. Ça, on peut le dire. Tout ne se règle pas avec la délivrance. Tout ne se règle pas avec la louange. Tout ne se règle pas avec... d'autres domaines, mais avec la parole, tout se règle. Vous pouvez prendre des heures et des heures à prier, mais la prière, sans la parole, c'est une grave erreur.